février 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Je présume que c'est une question posée là. Ne peut-on vraiment pas parler d'une intuition de l'être en acte qui viendrait comme un dévoilement à la conjonction de notre connaissance sensible, affective et intellectuelle, de ce principe d'unité subsistant au cœur de la diversité. Que la connaissance intuitive serait alors comme une surconnaissance qui ne serait possible que dans un moment de particulière présence au réel de tout notre être, dans toute la tension de notre réceptivité. Le jugement d'existence ceci est, posant l'altérité du réel matière et du réel autre, me révélerait simultanément autre et dépendant d'une altérité source de mon unicité. C'est très bien, c'est très bien. C'est pas comme, on y reviendra, je ne veux pas traiter cette question-là parce qu'on l'a déjà traité. Je sais très bien, pour celui qui dit ça, lisez ce que Maritain dit sur l'intuition de l'être. C'est une chose bonne, du reste, c'est une chose intéressante à lire. Et vous verrez alors peut-être mieux ce que peut représenter la différence entre une intuition esthétique, parce que ça me paraît très fort, une intuition esthétique. Il y a des intuitions esthétiques, ça je ne doute pas, il y a des intuitions esthétiques. Et l'intuition esthétique porte sur un rapport. Et je crois que toute intuition porte sur un rapport. Donc l'intuition se termine à une forme. Tout rapport est une forme, une détermination dans l'ordre de l'être. Ça ne touche pas l'être en acte. L'être en acte est indivisible. Il ne peut pas être saisi par une intuition. Alors évidemment, sur le mot intuition, on met tout ce qu'on veut. Il faut préciser. Qu'est-ce qu'on entend par intuition? Du reste, quand Maritain s'est mis à parler de l'intuition de l'être, on lui a fait tout de suite l'objection en disant « Est-ce que c'est un jugement ou pas un jugement ?» Maritain a dit « C'est un jugement. » Alors on lui a dit « Est-ce que c'est un jugement qui porte sur quoi ?» Alors, il porte sur l'être. Mais l'être, qu'est-ce qu'il est dans la réalité? Qu'est-ce qu'il est l'être en vous? Parce que c'est ça qui est intéressant. Nous avons dit l'être apparaît au moment de l'interrogation. Parce que l'interrogation a un mode, vous voyez, au fond intuitif, d'une certaine manière. L'interrogation devance ce que j'ai dans l'expérience. Je décolle quand j'interroge. C'est ça qui est très beau. Tant que je suis près de la réalité, je suis sur le terrain. Et quand j'interroge, je m'élève. Donc c'est le décollement de l'intelligence qui... Avant il faut un très grand ronflement de moteur, hein, pour pouvoir décoller. Alors le grand effort. Eh bien c'est vrai, je crois, que dans une interrogation, l'intelligence... va s'élever au-delà de ce qu'elle saisit ordinairement et habituellement. Elle s'élève pour ensuite regarder la réalité d'une manière plus immédiate. Il y a ça. Alors au fond, je crois que l'intuition, elle serait beaucoup plus, ce serait intéressant à étudier du reste. Est-ce que dans toute interrogation, n'y a-t-il pas une certaine intuition? Je vous ai dit, l'interrogation, c'est l'hypothèse. Dans toute hypothèse, n'y a-t-il pas une certaine intuition? On devance une solution. Dans toute hypothèse. Et il y a des gens qui ont la capacité de poser des hypothèses. Il y en a qui jamais, ils restent toujours sur le terrain, jamais ne s'élèvent et devancent. Il faut devancer pour interroger. Alors, il y a quelque chose, vous voyez, qui est de l'ordre intuitif. quand on devance. Alors j'aimerais mieux ça que d'une certaine manière. Mais vous voyez, c'est pas commode de bien voir ces différences entre le mot intuition, le mot... Je crains beaucoup que dans le mot intuition, vous voyez, ce sont des mots un peu globales. Saint Thomas n'emploie pas le mot intuition. Il dit que l'intelligence est « intus legere ». Il emploie le mot « perception », le mot « jugement », le mot « interrogation ». Toute interrogation implique un jugement. C'est toujours à travers un jugement qu'on interroge. Mais un jugement d'un mode particulier qui fait qu'on devance. Alors, est-ce que l'intuition, c'est devancer ? Il y a quelque chose de prophétique. On devance. Alors, c'est plutôt de ce côté-là que je verrai l'intuition. Et que le jugement d'existence, lui, saisit la réalité dans son altérité, en tant qu'elle est autre, et en tant qu'elle n'est pas moi. Donc, je saisis beaucoup plus quelque chose qui s'impose à moi. Et puis, il y a la découverte du principe. Alors, vous voyez, je crois qu'on peut dire qu'il y a ces différents moments, et il faut bien les nommer, je ne vois pas très bien où se situerait l'intuition, en dehors de l'interrogation ou avant l'admiration. Nous avons donc l'expérience. Alors, on est tous d'accord pour comprendre qu'il y a l'expérience par laquelle on touche la réalité. Cette expérience, elle implique le jugement d'existence. Mais je dis que le jugement d'existence est une méta-expérience. En ce sens qu'il faut une première expérience pour qu'il y ait le jugement d'existence. Vous n'avez pas tout de suite le jugement d'existence. Quand vous touchez la table, c'est ce que vous dites. Je touche la table. Cette table existe. Ça vient après, vous voyez. Ça vient jamais en premier lieu. Il y a toujours une première expérience, une expérience due d'un état, comme on dirait. Ça, je vous l'avais dit, d'une chose. Réalité existante. Je touche cette réalité. Puis, je peux, alors, dans une réflexion, dire jugement d'existence. Ceci existe. Ces jugements d'existence sont divers. Puisque le je existe, j'existe. Il y en a toujours au moins deux. J'existe et la table existe. Et le chat existe. Cette diversité peut être pour moi source d'intuition, je crois. Puisque je vois dans cette diversité la unité. Le chat existe, j'existe. Et ça a été pour Raïssa l'occasion d'une intuition. Elle a vu que le chat existait, qu'elle existait. C'est très étonnant de communier dans l'existence avec le chat. Jamais pensé. Communier dans l'existence avec le chat. Je comprends que c'est la première fois qu'on y pense. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose de particulier. Diversité, unité. Voilà. Toute intuition, je pense, porte sur la diversité, unité. C'est en ce sens-là qu'elle porte sur une relation. Et il y a une intuition. Là, je veux bien. Là, je veux bien. Mais là, on ne devrait pas dire intuition de l'être. On devrait dire intuition de l'unité de l'être dans la diversité. Et l'intuition de l'unité de l'être dans la diversité, c'est, vous voyez, l'intuition de l'un du multiple. Il y a le divers multiple. Et puis il y a l'unité. Il y a l'intuition de cela. Et cette intuition va me mettre dans une attitude d'admiration. Je crois que toute intuition me met dans une attitude d'admiration. Ce n'est pas l'expérience directe. C'est pour ça que c'est peut-être bon d'insister sur cette phase intermédiaire d'intuition qui me met en admiration. Et l'admiration va permettre l'interrogation. L'admiration, c'est un aspect affectif qui éveille l'intelligence. et qui met l'intelligence dans un état d'appétit. Alors, y a-t-il dans l'interrogation quelque chose de la première intuition? C'est ça qu'il faudrait se demander. Il y a quelque chose dans l'interrogation qui devance, c'est sûr. Donc y a-t-il dans toute interrogation un certain mode intuitif? Pourquoi certains interrogent-ils et d'autres n'interrogent-ils pas? D'où ça vient? Qu'on interroge subitement. On a envie d'interroger. On a envie de dépasser ce qui est immédiat. Et ça ne peut se faire que sous la poussée de l'admiration. Sous l'éveil de l'admiration. Vous êtes parfaitement éveillé quand vous êtes dans l'admiration. Parfaitement éveillé. C'est un éveil extraordinaire, l'admiration. C'est pour ça que les théologiens du XIIe siècle, Victorin, disent, et saint Thomas l'a repris, qu'au point de départ de toute contemplation, il y a l'admiration. C'est un éveil. Quelqu'un qui n'admire plus, vous savez, qui est complètement blasé. Complètement blasé. J'ai déjà vu ça. C'est un état de fatigue. Il est fatigué. Là, il n'y a aucune interrogation quand vous êtes blasé. Ça retombe par terre. Le nez dans la poussière. Hein. C'est le nez dans la... Tandis que là, c'est le nez au vent. Hein. Et l'interrogation. C'est celui qui veut, au contraire, saisir, aller au-delà et dépasser ce qui est donné uniquement. Alors, dans l'interrogation, j'accepterai. Il y a quelque chose, je ne dirais pas une intuition, mais il y a quelque chose d'un certain mode intuitif. Il faut devancer, il faut aller au-delà de l'expérience. Et c'est ce que toujours fait l'inspiration. Ça va au-delà et ce n'est pas encore vérifié. Et alors, ce n'est qu'une fois que j'ai interrogé, qu'est-ce ? La grande interrogation, que je reviens. Et c'est ce contact avec l'expérience et l'interrogation qui me met en face de ce mouvement d'induction. Et j'analyse ces différents moments. Il me semble, hein, si vous en voyez d'autres à mettre, vous me le direz, c'est toujours intéressant, mais je crois que c'est comme ça que nous comprenons. L'induction ne peut se faire qu'à partir de l'interrogation. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre que c'est l'interrogation qui commande l'induction. C'est l'orientation profonde de mon intelligence. Une fois que mon intelligence induit, alors quand je suis au niveau métaphysique, au niveau philosophie première, donc le jugement d'existence, ceci est, l'interrogation, qu'est-ce là? Et qu'est-ce l'être ou qu'est-ce l'ousia? Et dans l'induction, nous découvrons un principe, une source. Le principe, la source de ce qui est en tant qu'être. Et nous découvrons la substance. La substance, ça se découvre, hein, ça ne se touche pas. Parce que ça mord, alors c'est dit, c'est la même chose. Non, non ça se découvre, on dévoile la substance. On dévoile la substance comme une source. Comme un principe selon la forme, donc comme une source de toutes les déterminations. Une source de toutes les déterminations. Les déterminations sont données dans les 10 prédicaments. Ça vous donne les diverses modalités de l'être et diverses formes de la réalité telle que se présente à moi. Et je découvre cette source. C'est pour ça que quand je découvre cette source, la substance, je la découvre tout de suite comme l'au-delà de la substance première. Et la substance seconde. Parce que tous les prédicaments, toutes les formes se ramènent à la substance première et à la substance seconde. Les 9 autres prédicaments. Et c'est pour ça qu'en définitive, cette induction, ce sera le dépassement de la substance première et de la substance seconde. C'est là où l'effort est ultime. Et je découvre ce qu'il y a de commun. Mais ce qui est au-delà de la substance première et de la substance seconde. cette source qui est la substance. Donc nous y arrivons. Petit à petit, il faut arriver à découvrir ça. Par rapport à vous-même, qu'est-ce qu'il y a au plus intime de vous-même dans, au-delà de toutes vos déterminations, dans votre être immanent? La substance est découverte comme un principe immanent de toutes les déterminations, présente à toutes les déterminations, mais au-delà des déterminations, et comme source de toutes ces déterminations. Donc, elle est quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui est plus. Oui. Alors, cette induction de la substance me permet de découvrir cette source, ce principe. Alors, la substance, elle est principe, elle est cause, elle est arc. Donc, elle est principe, elle est cause. De ce qui est selon la détermination, selon la forme. Bon, alors, maintenant nous allons continuer de voir qu'une fois qu'on a découvert la substance, on peut dire que la substance est principe d'intelligibilité. C'est ce que j'avais essayé la dernière fois de vous montrer, comment la substance. Elle est principe d'intelligibilité en ce sens qu'elle est le ce qui exprime de la manière la plus forte le toti emelan. Alors, souvenez-vous bien, l'acuidité, le toti emelan. Le fait d'exister, dans le fait d'exister, son intelligibilité, la cuidité. Ça, il faut le savoir, il faut apprendre quelques mots barbares. Mais c'est comme le mot. Et très intelligent. C'est des mots extraordinairement astucieux. C'est le petit mot. Quid ditas, quod quid erat esse, toti enainam. Alors, l'acuidité, l'intelligibilité foncière de la chose. Et je vous avais dit qu'il fallait bien comprendre que ce toti enainam représente ce qu'est la réalité prise en elle-même et pour elle-même, selon elle-même. Quelle est votre cuidité à vous? Tâtez-vous le pouls. Quelle est votre cuidité à vous? Eh bien, votre cuidité, c'est d'être homme. Nature humaine. C'est votre nature. C'est ça votre cuidité. C'est votre cuidité. C'est ce qui vous définit le mieux. Ce qui vous définit le mieux, c'est pas d'avoir des yeux bleus. Non, non, non. Ça, c'est pour certaines personnes, oui, mais pas pour en réalité, c'est pas ça. C'est d'être homme. C'est-à-dire une nature raisonnable. Une nature raisonnable, c'est-à-dire en vous d'avoir l'esprit lié au corps. C'est la cuidité, ça. Et c'est ce que l'intelligence recherche quand elle veut connaître. Quelle est la cuidité du lapin? C'est difficile. Vous ne la savez pas exactement. On ne sait qu'une seule cuidité, bien, c'est l'homme. Parce que le lapin, on va le mettre dans un genre, n'est-ce pas? On va le mettre en parallèle et puis on va différencier le lapin de ce qui pourrait être proche du lapin. Alors, on voit très très bien qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que la cuidité du lapin. Mais vous pouvez décrire approximativement ce qu'on représente un lapin. Et quand vous voyez courir, vous pouvez dire oui, c'est un lapin. C'est sûr. Bon, alors l'acuidité, c'est ça. Et la douzia est source de cuidité. Elle est source d'intelligibilité. Elle est donc la première cuidité. La cuidité première. Une fois que je connais la douzia, je connais ce qu'il y a de fondamental dans la réalité. Et toutes les autres déterminations, je les vois en fonction de celle-là. Ce que nous verrons, du reste, progressivement. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un très gros problème. C'est le problème de la substance qui s'individue. Nous sommes partis de pierre. Quelle différence y a-t-il entre la substance et la substance première, telle qu'elle est donnée dans les catégories? C'est-à-dire vous. Quelle différence y a-t-il entre votre substance et vous? C'est quand même intéressant, puisque c'est à travers vous que vous avez découvert la substance. Alors, c'est tout le problème, traditionnellement, qui a été parlé du problème de l'individuation. Il faut dire un petit mot là-dessus, c'est forcé, l'individuation. Il faut parler de l'individuation. Aristote n'en a pas parlé. Pourquoi Aristote n'en a pas parlé? Ou plus exactement, il en a parlé, mais il n'a pas donné le mot. Il a parlé de ce que chacun était. C'était Hécaston. Aristote nous fait comprendre qu'après avoir saisi le ti esti, il faut saisir le pose. Comment le ti esti existe-t-il? Comment la substance existe-t-elle en vous? C'est le comment. Le comment, c'est le passage du tiesti au pose. C'est ça le chacun, Hécaston. Chacun existe. Chacun, nous existons comme une réalité distincte des autres. Nous sommes une réalité existante. Mais nous existons comment? Nous existons avec notre corps. Alors, notre corps est-il un accident de notre substance? Ou est-ce que notre corps est un co-principe? Et je dis bien un co-principe, c'est-à-dire un principe qui accompagne, relatif à. On est donc en présence de quelque chose de tout à fait particulier. L'homme est une substance composée. Elle n'est pas simple du tout. Nous avons eu beaucoup de peine à comprendre la simplicité de Dieu. Mais ce n'est pas beaucoup plus facile de comprendre la composition de l'homme. Et nous sommes une substance composée, nous ne sommes pas une substance simple. Nous avons découvert par l'intelligence ce principe, l'ousia, présent en nous, qui fait l'unité de toutes les déterminations. Mais nous devons nous poser la question, comment ce principe existe-t-il? Parce que quand vous saisissez le principe, c'est votre intelligence qui le saisit. Votre intelligence seule saisit un principe. Votre intelligence seule saisit une loi. Vous n'avez jamais vu un principe, vous n'avez jamais vu une loi, mais vous l'avez saisi. Donc c'est l'intelligence seule qui saisit le principe. Elle saisit le principe dans la réalité existante. Nous sommes partis de la res. Nous avons découvert dans la res, dans la réalité existante, un principe. Et maintenant, ayant découvert le principe, je reviens sur la réalité pour me dire comment ce principe existe-t-il. Les allers-retours constants. Ça, c'est constamment comme ça. Ça, c'est propre de l'intelligence. Nous sommes obligés d'analyser. Dès qu'on analyse, c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit que l'induction était sans analyse. Donc, c'est en analysant qu'on a découvert la substance, qu'on a découvert ce principe, qu'on a découvert cette cause. Une fois que j'ai analysé, je reviens sur la réalité pour voir comment ce principe existe-t-il. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le comment. C'est plus du tout la même interrogation. C'est important de bien saisir ces deux interrogations, le tiesti et le pos. Qu'est-ce que c'est et le comment? Alors, c'est ce qu'Aristote distingue ces deux sortes d'interrogations. Et à l'interrogation du comment, c'est de saisir ce que chacun existe, ce que chacun est, en lui-même et par lui-même. Saint Thomas, l'éthiologien, vont parler du problème de l'individuation. Et ça, c'est le fameux problème qui s'est posé à travers la théologie. Alors, Gilson dirait, c'est un problème de philosophie chrétienne. Alors, il s'agit de comprendre, c'est un problème de philosophie chrétienne. C'est sûr que le problème de l'individuation s'est posé d'une manière très particulière chez les théologiens. Je vais d'abord vous montrer comment il s'est posé chez les théologiens et comment ce problème ensuite a été transposé en philosophie. Et comment on redécouvre alors le problème de l'hécatombe, le problème de la réalité concrète. La réalité concrète, c'est l'hécatombe. Tandis que le principe, ce n'est pas la réalité concrète. Hein, puisque le principe, il n'existe pas de cette manière-là. Donc ce n'est pas la réalité concrète. Donc au fond, le problème de l'individuation, c'est le retour au concret existant. Mais il s'est posé en premier lieu chez les théologiens. Alors essayons de comprendre comment il s'est posé chez les théologiens. Le problème de l'individuation s'est posé chez les théologiens de cette manière, qu'à partir du problème du Christ, les théologiens ont dit que la nature humaine du Christ subsistait dans le Verbe. Et ceci, c'est non seulement les théologiens, mais c'est l'Église elle-même qui a précisé le dogme de l'incarnation. Et en précisant le dogme de l'incarnation, l'Église a dit deux natures. Deux natures, la nature divine et la nature divine. Il a pris un langage assez philosophique. Nature divine, nature humaine. Et que toutes ces deux natures subsistaient dans le Verbe. C'est-à-dire dans la deuxième personne de la très sainte Trinité. Voilà l'énoncé du dogme de l'incarnation auquel nous croyons. C'est une question de foi. On croit que dans le Christ, il y a une nature humaine parfaite et que cette nature humaine parfaite elle subsiste dans le Verbe de Dieu. Donc il n'y a qu'une seule personne dans le Christ et deux natures. On peut répéter ça sans rien comprendre. Hein. C'est normal, on ne comprenne pas, puisque c'est la foi. Alors on dit c'est suffisant. Surtout ne cherchez pas à comprendre, parce que vous détruirez la foi. Non, c'est intéressant de bien préciser ce qu'est la foi dans le mystère de l'incarnation. Alors, si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est que nature et la subsistance dans le Verbe, vous risquez de dire « on m'a dit ça, je répète ». Il faut quand même essayer de comprendre que le Verbe de Dieu, seconde personne de la très sainte Trinité, le Verbe de Dieu a la nature humaine en commun avec le Père et l'Esprit Saint. Il y a une seule nature divine. Pardon, une seule nature divine. Le Verbe de Dieu donc subsiste dans la nature divine. Cette nature divine est la même dans le Père et dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas trois natures divines. Il y a une seule nature divine. Il y a l'unité en Dieu. Dieu est un seul Dieu. Et à l'intérieur de cette unité, il y a les trois personnes. De sorte que le Verbe subsiste dans la nature divine. Et par amour pour nous, le Verbe assume la nature humaine. Et fait que cette nature humaine va subsister dans le Verbe. Donc va subsister dans la seconde personne de la très sainte Trinité. Alors, les théologiens vont essayer de préciser ce que représente exactement cette nature humaine du Christ. Et ils diront ceci, que cette nature humaine, selon la foi, a été formée en Marie. C'est en Marie que cette nature humaine a été formée. C'est ce que nous disons dans le Credo. Et que cette nature humaine, dans le Christ, est parfaitement individualisée. C'est telle nature, le Christ c'est tel homme, c'est pas l'homme en soi, c'est tel homme particulier. Il avait un regard qui lui était propre. Il avait une sensibilité qui, comme Albert le Grand le dit, toute semblable à celle de Marie, puisque la maternité virginale de Marie, cette maternité miraculeuse était plus parfaite que toutes les autres maternités. Donc, la ressemblance entre l'enfant Jésus et Marie était plus grande que la ressemblance normale d'un enfant à l'égard de sa mère. Pour chacun d'entre nous, il y a deux atavismes qui luttent l'un contre l'autre. Et on sait très bien, il y a deux atavismes en nous. Et l'atavisme, on sait que c'est très très complexe. Ça peut remonter assez loin. Ça peut remonter. Toujours l'arrière-grand-père ou l'arrière-oncle bandit qui se retrouve dans notre sensibilité. Ce qui explique toutes nos tentations que nous avons de temps en temps de vouloir tuer notre voisin. Parce que notre arrière-oncle, il a tué quelqu'un. Alors ça se propage. Donc notre individuation, vous voyez, le problème de notre individuation, c'est un problème très très complexe. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques dans notre individuation. Comme il n'y a pas deux feuilles semblables, il n'y a pas deux individus semblables. Jésus a été un individu, parfaitement individualisé. Mais son individualité subsiste dans le Verbe de Dieu. Donc nous devons distinguer dans le Christ le mystère de sa subsistance et son individualité. Ça a été pour les théologiens, vous comprenez, un très très gros problème. Parce que en vous, en moi, y a-t-il une distinction entre mon individualité et ma subsistance? Enfin, une petite distinction, mais je ne peux pas séparer. Ma subsistance vient de mon âme, mon individualité vient de mon corps. Mais dans la réalité, les deux ne font qu'un. Je subsiste grâce à mon âme spirituelle et je subsiste dans mon individualité. Et ça va être le problème de la substance. Ici, dans le mystère du Christ, je distingue individu et subsistance. Et je distingue les deux. Je ne les sépare pas, c'est bien évident. Je distingue les deux. L'individualité du Christ vient de Marie et Jésus est tout proche de sa mère dans son individualité. Et sa subsistance vient du Père. Il y a un infini entre les deux. La chair du Christ est toute proche de celle de Marie. Mais cette chair du Christ subsiste dans le Verbe. Et du fait même qu'elle subsiste dans le Verbe, elle devient la chair d'un Dieu. Et par le fait même qu'elle devient la chair d'un Dieu, elle a un prix infiniment plus grand que la chair de Marie, qui est celle de la créature. Il faut saisir ça, au point de vue de la théologie. Alors vous comprenez qu'à partir de là, les théologiens ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que l'individuation. Comment se réalise l'individuation? L'individuation ne vient pas premièrement de notre âme. C'est sûr. Elle ne vient pas premièrement de notre âme. Bien que je ne peux pas parler d'individuation sans parler de l'âme. Parce que de l'âme, de mon âme humaine. Dans le Christ, hein, n'oublions pas, quand je dis nature humaine, il y a donc dans le Christ une âme qui a été créée par Dieu, qui n'est pas le Verbe de Dieu. Et il y a le corps formé en Marie. Donc il faut toujours distinguer les trois aspects dans le mystère du Christ. Hein. Sa subsistance divine, qui est le Verbe, dans sa nature humaine, son âme spirituelle et son corps. L'âme spirituelle a été créée directement par Dieu dans son corps, dès le premier moment de sa conception. Et cette conception s'est faite miraculeusement par l'opération de l'Esprit Saint. Et au premier moment de la conception du Christ, l'âme a été créée. Et cette âme étant unie à la subsistance du Verbe, va être d'une proximité unique à l'égard de la source de toute grâce. Et c'est pour ça qu'on dira que dans l'âme du Christ, il y a une plénitude de grâce quasi infinie. Puisqu'il ne peut pas être plus proche de la source. Et c'est pour ça qu'on dira que la plénitude de grâce du Christ, touchant immédiatement sa fin, implique la vision béatifique. Vous voyez comment le théologien essaie d'analyser ce qui caractérise la situation unique de l'humanité sainte du Christ, c'est qu'elle est proche de la source de toute grâce, le Verbe. Et par le fait même qu'elle est la plus proche de cette source, elle est dans cette source, puisque cette humanité subsiste dans le Verbe. Et donc, si elle est toute proche de cette source, elle reçoit de la source l'effet le plus parfait. Donc, il y a une plénitude de grâce. Et si il y a une plénitude de grâce qui est conjointe à sa fin et à sa source, cette grâce immédiatement atteint son terme. Et donc, elle est une grâce qui implique le point de vue de la vision béatifique. Enfin, c'est le petit raisonnement que font les théologiens et qui, je crois, quand on est attentif au texte de l'Écriture sur le Christ, est dit d'une façon virtuelle. Le père Feuillet a refait toute une étude là-dessus pour montrer que selon le texte même de l'Écriture, nous pouvions dire que le Christ avait, dès le premier instant de sa conception, la vision béatifique. C'est intéressant parce que c'est une des thèses qui est le plus discutée d'aujourd'hui. Alors c'est important de bien la comprendre, et de comprendre ce que ça veut dire. C'est dans sa nature humaine, c'est dans son âme humaine qu'il a cette plénitude de grâce qui va jusqu'à la vision béatifique. Et ceci subsiste dans le Verbe de Dieu. C'est le corps qui est individué. Mais le corps n'existe que par l'âme. Donc faisons attention quand on dit que l'individuation vient du corps. Si je dis, ça c'est un problème là, donc vous voyez comment il s'est posé au point de vue théologique. Hein. Le problème de l'individuation s'est posé au point de vue théologique très fortement à cause du mystère du Christ. Je n'entre pas plus. Maintenant, j'essaie d'entrer comment ce problème s'est transposé en philosophie. Alors, il s'est transposé en philosophie en voyant tout de suite qu'il y avait deux grandes positions philosophiques. La position de Thomas d'Aquin et la position de Don Scotus. Et ceci, à travers tous les bons manuels scolastiques, vous les verrez. Et je comprends que c'est intéressant à voir. Alors on dit que pour saint Thomas d'Aquin, le principe d'individuation, et on parle de principe d'individuation, saint Thomas parle de principe d'individuation. Le principe d'individuation, c'est la quantité. La fois prochaine, je vous donnerai les textes, parce que c'est quand même intéressant, c'est un petit problème très discuté et très difficile à bien saisir. C'est la quantité. La quantité avec ses dimensions. Donc le principe d'individuation provient de la matière et de la quantité. Tandis que Don Scott franciscain, tandis que Don Scott, lui, dit que le principe d'individuation provient de la forme. C'est l'eccentas. Il prend l'exemple de Gabriel en disant que c'est la gabriélité qui fait que Gabriel est tout à fait spécifié en tant que Gabriel. N'est-ce pas ? On voit très bien, parce que les anges n'ont pas de matière. Donc ils sont spécifiés par la forme et individualisés par leur forme. Alors c'est la gabriélité, n'est-ce pas, qui fait que Gabriel est Gabriel. On voit très bien ce par quoi Gabriel est Gabriel. Alors c'est par là qu'il est une réalité individuelle, angélique, puisqu'il s'agit d'un ange, n'est-ce pas. Donc angélique, alors c'est la gabriélité. Alors à la différence, donc à partir de là, il dira que l'individuation se prend de l'eccentas, c'est-à-dire de l'ultime moment de la détermination de la forme. Alors il y a deux positions qu'on a considérées comme irréductibles l'une par rapport aux autres, la position thomiste et la position scottiste. Donc, quand on parle de l'individuation, il faut tout de suite penser à ces deux. Je crois que là encore, le problème est mal posé. Parce que toujours, quand on transpose, n'oubliez jamais ça, quand on transpose une question théologique dans la philosophie, on opère une laïcisation. C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses le mystère de la foi et on regarde des conclusions. Or, on ne peut regarder les conclusions que dans la lumière de la foi. Si vous regardez des conclusions théologiques indépendamment de la lumière de la foi, ces conclusions théologiques n'ont plus de sens. Forcément, puisqu'elles ont été élaborées à partir de la foi. Et constamment dans la scolastique décadente, c'est ce qu'on a fait. Il y a une transposition de certains problèmes théologiques dans le problème proprement philosophique. Et à partir de là, on ne comprend plus rien. Et c'est pour ça que saint Thomas, lui, en théologien, parle de principe d'individuation, et on a continué de parler de principe d'individuation. Or, si je me repose le problème au point de vue philosophique, je vois qu'il ne s'agit pas du tout d'un principe d'individuation. Il s'agit de comprendre le comment, le pourquoi. Ce n'est pas un principe, ça. C'est la manière dont un principe existe. C'est la manière dont une réalité existe. Ce n'est pas du tout un principe. Et donc, c'est nécessairement complexe, le pose. Un principe est indivisible. Un principe est ce qu'il y a d'ultime dans la recherche. Tandis que le pose, c'est au contraire regarder la manière dont la réalité existe. Eh bien, c'est tout à fait différent. Une fois que vous comprenez que le principe d'individuation, une fois que vous comprenez que l'individuation doit se poser comme un comment et non plus comme un principe, vous pouvez saisir que la substance, puisqu'il s'agit de la substance, il s'agit de l'homme. Il s'agit de l'homme, il ne s'agit pas de la substance angélique, il ne s'agit pas des substances séparées, j'en ai aucune expérience. Donc il s'agit, au point de vue, de regarder comment ce principe que j'ai découvert va, de fait, se réaliser dans notre monde physique. Donc, cette substance, c'est mon âme. C'est mon âme qui informe le corps. Et donc, l'individu ne peut apparaître qu'à partir de l'information de mon âme vis-à-vis de mon corps. Or, l'âme est source de toutes les déterminations. Elle est source de la quantité. Il n'y a pas de quantité existante sans l'âme dans mon corps. Autrement, c'est une quantité mathématique. Et c'est plus ma quantité. De sorte que quand je dis que l'individuation provient de la quantité, elle provient d'une quantité qui est nécessairement informé par l'âme. Donc l'âme n'est pas absente du problème de l'individuation. L'âme est présente dans le problème de l'individuation. Et c'est la rencontre de l'âme et du corps qui peut m'expliquer ce problème de l'individuation. Dès le premier moment de la création de l'âme dans le corps, dès le premier moment de la conception, il y a individuation. Mais c'est l'âme qui en est la source première. Alors à ce moment-là, vous voyez, je fais une petite réconciliation entre Don Scott, entre du moins les scottistes et les thomistes. En voyant que Don Scott a raison de dire que c'est vrai, la source de toute individuation, c'est nécessairement, je ne dirais pas le chéphas, je dirais la substance. Et que cette individuation se manifeste à travers la quantité. Elle se manifeste, elle est visible à travers la quantité. Et c'est vrai, c'est la quantité qui manifeste le problème de l'individuation. La quantité liée aux qualités, liée à une quantité de relations, parce que mon individuation, elle n'est faite pas seulement de ma quantité. Mon individuation n'est pas seulement le poids-objet. Je pèse tant, voilà, mon individu. Ah non, il y a autre chose, il y a la figura. Il y a la figure, ça fait partie de mon individuation. Dans mes mains sont individuées par leur figure, leur manière d'être, par mes pieds aussi, c'est l'individuation. L'individuation regarde mes oreilles, regarde mes yeux, toutes les qualités qui sont présentes. L'individuation, c'est...